Bonsoir. Le nouveau livre de Marie-Josée Monzin s'intitule « Images », entre parenthèses à suivre, avec un sous-titre « De la poursuite au cinéma et ailleurs ». Vous dites à la page 9 de votre livre « Ceci n'est pas un livre, mais peut-être la trace d'un parcours en marche vers l'image ». Je voudrais commencer par vous interroger justement sur votre écriture par rapport à l'image et pour quelles raisons, selon vous, la forme qu'a pris cette pensée ne donne pas lieu à un livre tel que on l'attend d'ordinaire.
Vous avez raison. J'ai écrit d'autres livres avant et c'était une façon de dire, une première façon de dire, ceci n'est pas un livre comme les livres précédents. Mais ce n'était pas seulement cela. C'est vrai qu'il n'a pas la forme des précédents livres. Il rompt avec une tradition, sinon universitaire, mais une tradition générale, du chapitre, des notes, du livre savant, d'autant plus qu'on attend toujours d'un philosophe qu'il construise quelque chose qui s'articule, qui se dialectise, qui se thématise, et qui exprime toutes les références, enfin formule toutes les références, tout l'arrière-fond. Donc je voulais rompre avec cette forme-là, que j'avais toujours adoptée, non sans plaisir, mais pas seulement. Pourquoi je voulais rompre ? C'était pour une autre raison, qui était de pouvoir témoigner d'une nouvelle façon d'aborder mon objet singulier, privilégié de recherche, à savoir la question de l'image, du visible, de l'art, du cinéma, de ce qu'on nous donne à voir, de ce que nous voyons, de l'aborder en me soumettant, presque imaginairement, presque fictionnellement, en me soumettant au désir de cet objet, à la nature de cet objet, à ce que cet objet qu'on appelle les images, s'il nous disait comment il veut qu'on parle de lui, et étant dans cette familiarité quotidienne depuis tant d'années avec ce qu'on nous donne à voir sous toutes les formes, ma conviction était que l'image, d'une certaine façon, exigeait que l'on soit fidèle à quelque chose que je m'efforçais de discerner et de cerner en même temps. C'était le jeu, l'écart, la disjonction, la féconde disjonction, mais la disjonction quand même, entre le dire et le voir, entre l'écrire et le montrer, entre la parole et l'image. Tout ça a été largement et abondamment travaillé par la philosophie, je dirais de façon séculaire, pas forcément thématisé, mais toujours quand même là. Je veux dire que ce soit chez Platon, chez Saint-Augustin, ou chez Kant. Donc, cette question de savoir quel rapport on peut faire entre les épreuves du sensible, le rapport au visible et la puissance des mots, là, je voulais le mettre en crise, le prendre vraiment comme ça, presque le mordre dans sa chair la plus vive et la plus difficile pour moi, écrire quand même, mais ne pas demander au livre ce qu'il nous promet souvent, ou qu'il peut souvent promettre au lecteur, à tort dans bien des cas d'ailleurs, de donner une maîtrise, de témoigner d'une maîtrise, d'une expertise, d'un savoir, d'une expérience qui mérite vraiment d'être communiquée, d'une familiarité que les autres n'ont pas, d'une puissance critique qui allait être partagée, partageable, d'un savoir, d'une science. Ça fait tant d'années que je savais que l'image n'était pas un objet du savoir, ne serait jamais l'objet d'une science, ne serait jamais un lieu d'expertise, ne serait jamais un site de maîtrise, que je voulais être fidèle dans mon écriture à cette turbulence vagabonde, à cette rébellion, à cette résistance du visible à ce que l'on en dit. Et en même temps, témoigner, puisque je suis dans cette parole qui me plaît sur ce qu'on me donne à voir dans tous les domaines, témoigner d'une relation irréductible entre ce qu'on donne à voir et ce qu'on donne à penser, donc ce que l'image nous permet enfin de comprendre, de dire, de partager. Vous savez que j'avais publié un collectif à partir d'un petit texte, d'un très joli petit texte que Jean Toussaint de Santi avait, une année avant sa mort, prononcé dans mon séminaire. Et où je lui avais demandé, puisque nous partagions ensemble la lecture des textes philosophiques, d'écrire quelque chose sur le visible. Et donc, Voir ensemble. Le livre s'est appelé Voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, nous voyons ? Et je me souviens que Jean Toussaint de Santi, dans le cours de sa conférence, qui allait totalement dans le sens du travail que je faisais à ce moment-là et que je continue de faire, avait sorti cette formule « Nous ne voit rien ». Nous ne voit rien. Autrement dit, le « nous » était à charge. Et bien que chacun soit équipé de deux yeux pour... dans le meilleur des cas, de bons yeux, ou pas trop bons yeux, mais en tous les cas, soit équipé d'un corps qui reçoit toutes les impressions qui nous viennent du dehors, qu'elles soient de l'ordre de la perception ou de la réception d'une création. Ce que Jean Toussaint de Santi exprimait avec clarté, c'est qu'on ne partageait que ce dont on pouvait parler. Nous ne voyons rien, que partageons-nous ? Comment se construit ce « nous voyons » ? Si on peut dire « nous voyons », c'est que nous pouvons dire, nous dire, partager les mots qui désignent, qui expriment, qui formulent ce que chacun voit, mais qu'il ne peut partager. On ne partage pas nos yeux, on ne partage que nos mots. Donc il y avait cette mise à l'épreuve du voir et du partager que je travaillais depuis tant d'années, et dont ce livre, donc, qui n'est pas un livre, qui s'adresse aux images en même temps, hein, les images qui étaient à suivre et qui me suivaient. Pourquoi depuis tant d'années, je travaillais alors que j'étais philosophe, donc femme de parole, de discours, de texte, enfin bon. Pourquoi avoir choisi... ce lieu qui met sans arrêt en question le pouvoir qu'a la parole face à ces objets. C'est pour ça que je disais, et je faisais à l'époque, il y a donc 3 ans, 4 ans, un séminaire sur la poursuite. Je l'avais intitulé « De la poursuite ». Alors, est-ce que les images me poursuivent et pourquoi est-ce que je poursuis tant les images ? Et il y avait donc, dans cette double interrogation, cette obsession de l'image, image à suivre, image qui me suive, qui m'obsède, qui me chasse, et moi qui chasse les images, qui suis chasseresse. Bon, toutes les images, évidemment, de la mythologie peuvent aussi intervenir là, qui font que quand on est chasseur, Ovid nous l'a bien expliqué, dès que le chasseur touche sa proie, il est métamorphosé. Ça me plaisait bien.
Actéon,
par exemple, à qui Lacan se comparait. Jacques. Donc le fait d'être passé aussi beaucoup par la voie de la psychanalyse a été pour moi d'une prodigieuse richesse, puisque au même moment, dans les mêmes années, hein, j'avais toute jeune suivi les séminaires de Lacan, j'entendais bien comment Lacan disait que la psychanalyse n'était pas une science, que la question de la passe était justement la remise en question, la mise en crise de qu'est-ce que c'est qu'être psychanalyste, qu'est-ce que c'est que... est-ce qu'il y a une expertise, hein, qui fait que... on sait exactement de quel savoir retourne ce qui se transmet. Mais je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas plasticienne. Je m'apercevais simplement que la question de l'image sur laquelle Lacan lui-même se cassait les dents, et s'est cassé les dents jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, parce qu'il n'a rien dit sur l'image qui soit véritablement au cœur de la question, alors que ce qu'il dit de l'impossibilité de faire de la psychanalyse une science a directement à voir avec la question de l'image. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je veux dire que la rencontre avec la psychanalyse était à la fois la rencontre des impasses et des apories de la parole et de l'expertise et d'un savoir sur le voir, un savoir sur l'inconscient, un savoir sur le désir, à moins d'être pervers et de prétendre avoir une position de maîtrise et de domination sur le désir des autres et sur le désir tout court. Donc, à partir du moment où l'image était à la fois ma poursuivante et ma proie impossible, mon gibier qui échappait pour toujours, et il fallait absolument qu'elle soit en fuite pour que je m'assure qu'elle était à la fois ce que je ne pouvais quitter, ce qui me faisait courir, et qui assurait en même temps, en assurant sa liberté, c'est-à-dire je ne pouvais pas mettre la main dessus, était en même, me donner en échange le cadeau suprême, c'était de me désigner à mon tour comme sujet libre. Donc la question de la liberté s'est posée d'emblée au cœur de la poursuite des images, poursuite des images étant à entendre dans le double génitif, hein, de les images qui poursuivent et qui sont poursuivies. Alors, quelle forme je donnais à ce non-livre, ou plutôt à cet objet qui, en utilisant des mots, voulait être fidèle à la fuite de son objet, à la liberté de son objet, c'était de faire comme les gens avec qui je travaille depuis tant d'années, les cinéastes, un montage, de dire, voilà, je saisis des choses, elles m'échappent, mais je fais quand même un montage. Je vais travailler à la fois dans la continuité d'une obsession et dans la discontinuité des échecs et des impasses et des vagabondages. Donc, ça va être un montage qui joue à la fois sur continuité. Il faut bien que les pages se suivent comme les lettres qui composent les mots. Je veux dire, on ne peut pas tout faire voler en éclats. Il y a un contrat de consistance minimum à assurer, je l'assurerai. Mais une fidélité à mon objet, ne jamais donner le sentiment au lecteur que ça y est, on maintient. Donc, travailler les discontinuités et les suspens. Évidemment, le cinéma a été le lieu d'élection. J'adore le suspense au cinéma, évidemment. Donc, poursuite, chasse, suspension, suspense. Voilà comment, on maintient une sorte de halètement, on joue avec des rythmes respiratoires, avec l'angoisse, le soulagement, le redépart. Voilà. De toutes les façons, l'important étant de faire vivre une liberté, quelles que soient les menaces de mort que sont non seulement les chasses réussies, ce qui est une catastrophe, les trophées, hein, avoir l'image comme trophée, pas possible. Après, il n'y a plus qu'à la naturaliser, l'empailler, et beaucoup de livres empaillent les images. Mais qu'elle continue à fuir, mais que je puisse malgré tout entrer en contact avec des lecteurs, des interlocuteurs, que ce livre soit une adresse. Je le dis aussi dès le début, il ne peut exister que s'il est une adresse. Voilà. Et une adresse qui fait de l'image ce que nous allons partager. Alors on va lire ensemble quelque chose qui nous fuit. Alors c'est ça qui fait que cet objet est très bizarre, mais que je ne sais pas si je l'ai réussi. Le problème n'est même plus là. Une fois qu'on l'a donné à son éditeur, on fait une croix sur la satisfaction. On entre dans une angoisse intime. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai quand même respecté l'image. Je lui ai laissé ses interlignes, ses suspens, etc. Et puis, on verra bien ce qui arrivera avec cet objet sans notes et sans chapitres.
Alors, votre livre est absolument passionnant, d'autant qu'il se livre à des analyses détaillées de certaines séquences, de certains films. Je pense en particulier à propos de la poursuite, du poursuivi, du poursuivant, à ce film du cinéaste thaï ou thaïlandais, dont vous parlez des métamorphoses du chasseur et du chassé. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Oui, là vous faites allusion à un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est Apichatpong Verasethakul. Qui a fait ce film sublime qui s'appelle Tropical Malady, dont je parle, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes une autre année avec Oncle Bunmi, quand Tim Burton était au jury. C'est-à-dire que là, on voit bien la façon dont certains cinéastes sont accessibles ou non au caractère chamanique du cinéma. Au fait que faire du cinéma, qu'on le veuille ou non, fût-ce le cinéma le plus militant ou le plus brechtien, dès qu'on donne à voir, on devient magicien. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait croire et de quelle façon l'on convoque les fantômes, les spectres, les apparences. On joue avec le temps, on joue avec le pays des morts, avec le royaume de la mythologie, le régime de la métamorphose, de l'apparition, de la disparition. Chez Verasethakul, il y a une véritable passion, culturellement nourrie par les traditions de contes, de fables et de mythologies de Thaïlande et de l'Extrême-Orient, mais ou d'Asie du Sud-Est. Il connaît à peu près toutes ces cultures, mais ça n'est pas pour faire un cinéma ethnologique du tout. Il n'a pas eu le prix du Festival de Cannes parce qu'il fallait saluer la culture thaï, pas du tout. Tropical Malady c'est à la fois les métamorphoses d'Ovide, c'est Mille plateaux de Deleuze. C'est ce rapport absolument transformateur, génétique, généalogique, magique, chamanique, à ce qui est vu, qui en même temps interroge de façon surprenante. Et alors, bon, il y a le rapport à l'image qui est admirable, avec tous les moyens les techniques, les effets spéciaux. Enfin, il s'amuse, c'est un vrai magicien, un conjurer, vraiment, c'est un prestidigitateur, pour faire apparaître et disparaître, troubler, voilà. Mais ce dont il s'agit, c'est une affaire, je dirais, universelle, anthropologique, de quelle façon le cinéma est à la fois l'art du chamanisme moderne, si nous pouvons encore avoir un entretien avec le pays des morts, le pays des spectres, avec le désir, avec le brouillage des sexes, tous les thèmes de la modernité la plus récente sont là, la guerre, la chasse, les soldats. C'est à la fois la forêt vierge et la caserne, c'est à la fois Bangkok moderne et Bangkok totalement touristique, c'est à la fois les troubles sexuels, l'homosexualité, les rapports entre les générations, les rapports à l'animalité, à la mort, à la mascarade, au déguisement. Et donc, il y a, j'ai voulu consacrer un certain nombre de pages à Vera Cetacool pour rendre hommage à la dimension éminemment deleuzienne de son rapport au cinéma. L'image étant le lieu de ce que les Grecs appellent Genesis, de la transformation, de la métamorphose, de l'instabilité, de la fluidité, labyrinthique. Pourquoi ? Pas uniquement pour le plaisir que nous avons à regarder des prestidigitateurs, c'est que ce labyrinthe interroge le spectateur. C'est qu'il construit une place pour le spectateur. Il est extrêmement respectueux du rapport qu'il a avec nous en train de le voir. Il nous met en chasse, c'est-à-dire nous nous mettons à être inévitablement dans ce film de tous les côtés à la fois. On est chasseur, on est chassé, on devient tigre, on devient oiseau, on devient singe, on devient chien mort, chien ressuscité, on devient grand-père, on devient femme, on devient homme. Ce devenir tout, cette espèce de mise en scène du possible et de la métamorphose, est une proposition cinématographique absolument prodigieuse. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, chacun va, avec sa subjectivité, choisir les films qu'il aime, dans lesquels il va entrer, etc. Pour moi, celui-là a eu une place singulière, comme d'autres films que j'ai choisis, puisque j'ai travaillé sur beaucoup de films, sous le thème de la poursuite. Hein, ça pouvait être Hitchcock, ça pouvait être...
Les oiseaux.
Oui, les oiseaux d'Hitchcock, enfin... Ça peut être Terre sans pain de Buñuel. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Le rapport que j'ai aux images est celui que j'ai avec le possible. Et toute image qui m'ouvre le champ des possibles a droit à la gratitude, l'enthousiasme et au travail et à la communication. Parce qu'elle me met en situation de partager une liberté avec ceux à qui j'en parle, ou avec ceux à qui je vais voir, ou à qui je vais montrer. Je travaille dans une école de documentaire, donc je partage énormément de choses, de films, avec ceux qui viennent à ce séminaire. Et j'ai besoin de partager ce visible pour construire de la parole, et besoin de partager cette parole pour établir, avec ceux à qui je le partage, un régime de liberté dont je dis que je peux témoigner que chacun, dont chacun est bien content parce que ça, la parole circule de la façon la plus, voilà aussi, vagabonde, pas erratique, hein, on dit pas n'importe quoi du tout, mais on sent que les regards construisent, qu'on cherche les mots par lesquels on va dire pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, de quelle façon on est pris, surpris. Dérangé, angoissé, etc. Donc, le Happy Chatpong Vera Cetacool a été pour moi un moment de grâce, et j'en ai témoigné parce que j'avais fait un séminaire au Brésil, et c'est là que ça m'intéressait beaucoup parce que je travaillais avec le cinéma amazonien, de voir à quel point les Indiens d'Amazonie étant en train de se saisir, grâce aux anthropologues, des caméras pour rendre compte de leur propre expérience, du monde, de la nature, de la forêt et du rapport à la disparition de la forêt. Donc problème qui nous touche tous universellement, planétairement. Hein. Vous savez que la fin de la forêt brésilienne, c'est pas seulement la fin d'une tribu d'Amazonie, c'est la fin d'un équilibre écologique pour la planète. Et donc... Là, c'était magnifique de pouvoir parler du film, de travailler, commencer le travail avec eux sur Vera Cetacool, voir comment, se saisissant des caméras pour raconter leur histoire de Brésiliens non Brésiliens, hein, d'Indiens n'ayant pas droit de cité, pas de droit de citoyen, hein, aucun état civil. Ils étaient en même temps les habitants d'un trésor planétaire habité par des forces naturelles qui, sans arrêt, leur racontaient leur détresse, leurs menaces. Et donc, il y a eu là, c'est comme ça que tout ça s'est mis en place. Voyez. Donc, tout ça est très lié. L'histoire de ce livre est liée à des aventures du corps et de la parole dans des pays. Vous voyez, je ne suis pas allée en Thaïlande, mais grâce à Vera Setakul, je suis entrée tout d'un coup avec le cinéma amazonien. Et puis ensuite, je suis partie en Algérie, qui est mon pays d'origine. Et là, on a fait aussi un travail. J'ai fait connaître aux Algériens le cinéma d'Amazonie. Qu'est-ce que c'est qu'un cinéma colonisé? Qu'est-ce que c'est qu'une image colonisée? Qu'est-ce que c'est que la décolonisation d'un regard? Alors, voilà. Et le livre est construit comme ça. C'est un voyage. On va coller. Voilà. On ne pense qu'en voyageant. Et réellement, si on le peut, ou en tous les cas, en organisant, dans le rapport aux images, on ne peut rien organiser qui ne se mette à l'épreuve d'une pensée voyageuse, voyageante. Voilà. Donc les voyages m'ont aussi permis de rencontrer et de vivre en Chine, voilà, de me mettre à l'épreuve d'autres expériences et de faire circuler cette expérience du visible. Voilà.
D'accord. Alors, dans votre troisième chapitre, vous l'intitulez « Le casting du premier venu ». Et vous y intéressez à un certain nombre de films américains, et de films américains, notamment des années 30 et 40. Et vous distinguez notamment le personnage de John Doe, hein, qui est au fond
Tartampion. Oui.
Voilà, Tartampion, l'Américain représentatif de tous les autres Américains. Et en même temps, vous regardez avec un regard de sympathie certains cinéastes qui montrent toute la complexité de ce qu'il peut y avoir de liberté, justement, dans les aventures d'un tel personnage. Mais en même temps, vous opposez à cela aussi d'autres films, notamment un film de Preston Sturges, que, au contraire, vous interprétez comme une sorte de rabattage de la liberté. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu, vous préciser?
Oui, alors, c'est parti. Je dois énormément, dans mon rapport au cinéma, à l'œuvre de Jean-Luc Godard, à son œuvre écrite comme à son œuvre cinématographique. Et comme vous savez, la partie qui s'appelle le casting du premier venu, le casting de l'homme ordinaire. J'étais partie de... Je voulais savoir que poursuit le cinéma. Hein, la question, que poursuit le cinéma? Puisque je suis dans l'interrogation de la poursuite. Que moi je sois poursuivi par les images, que je les poursuive à mon tour. Mais le cinéma est un art qui a aussi son histoire. Et voilà qu'au moment où, en 1995, pour la première fois, un grand cinéaste dit « Un siècle de cinéma, construire et mettre en œuvre quelque chose que j'appellerais histoire du cinéma, au singulier et au pluriel, vous savez, avec le S entre parenthèses. » Donc il s'est trouvé qu'à ce moment-là, j'ai rencontré Godard, enfin, on a pas mal parlé, et j'étais allée le voir, et j'avais beaucoup travaillé sur les histoires du cinéma, et donc dans une partie, donc la monnaie de l'absolu, qui est une des parties de l'histoire du cinéma, Godard fait apparaître sur l'écran trois, c'est comme il le fait souvent, hein, des formules écrites. C'est vraiment quelqu'un pour qui la question du rapport des mots au visible, du lisible au visible, est d'une intensité critique à la fois ravageante, difficile et exaltante, enfin. Voilà qu'il écrit « que veut le cinéma tout ? Que peut le cinéma rien ?» Pareil, comme ça. Troisième écran. Que fait le cinéma? On attend. Il arrive quelque chose. Alors évidemment, pour ceux ici, qui, comme moi ou Francis, nous avons tous à l'école d'un jour lu « Qu'est-ce que le tiers état ?» de la BCIS, hein, 1789. « Qu'est-ce que le peuple tout ?» Exactement la formule de Seyès. « Qu'est-ce que le peuple tout ? Que peut le peuple rien ? Que va faire le peuple ? Quelque chose !» Donc, simplement, les verbes avaient changé. Hein. Qu'est-ce que être, vouloir, pouvoir, entre la formule de Seyès et celle de Godard. Donc, c'était bien le rapport entre une formule politique, 1789, hein, tout, rien, quelque chose, que Godard reprend du côté du cinéma sur le mode de vouloir, pouvoir, faire. Et là, je me dis, bien que Godard ne donne jamais les clés, que veut le cinéma ? La question du cinéma pour Godard, s'il a pensé à ce point à reproduire la rythmique respiratoire de la phrase de Seyès, qui est devenue une sorte de formule qui a enthousiasmé 1789, c'est que Godard pense que le cinéma a en charge la question du peuple. Alors, si le cinéma a en charge la question du peuple, comment le cinéma a-t-il montré le peuple ? Est-ce que le peuple est montrable ? Est-ce qu'il est montrable ? Est-ce qu'on peut filmer le peuple ? Alors, on peut filmer peut-être les représentants du peuple, mais en quoi sont-ils les représentants du peuple ? Et donc, je me suis intéressée à deux choses, c'est de quelle façon apparaissent les chefs ? Et de quelle façon apparaît la foule ? La population, la populace, le peuple, la multitude, filmer la foule. Filmer le peuple, c'est filmer la foule ou le représentant du peuple ? De quelle façon le représentant du peuple peut-il être filmé ? Et que je dise, en le filmant, je filme le peuple. Il n'y a pas de représentant du peuple, c'est infilmable. On ne pourra jamais montrer le cinéma, ne peut pas montrer le peuple, parce que le peuple n'est pas montrable. Donc, que fait le cinéma ? Quelque chose ? Que fait-il ? Donc, je me suis mobilisée sur cette question de savoir si le peuple est fait de nous tous, nous qui dit par exemple « nous voyons, nous écoutons, nous obéissons, nous parlons, nous nous taisons, voilà, nous votons, nous choisissons ». Alors ce « nous », comment il se construit au cinéma ? Donc je me suis emparée des films qui, aux États-Unis, évidemment, de façon très, très précoce et privilégiée, s'est intéressée à la question de savoir quel est le corps, ou quelle est la façon de filmer les corps qui serait le corps du peuple ? À quoi ressemble le corps du peuple ? Il y a un moment où les États-Unis ont pensé que le corps du président était le corps du peuple et que le cinéma allait fournir au peuple le corps d'un président. Vous savez qu'il y a eu comme ça des présidents des États-Unis qui venaient directement du cinéma et d'autres qui y pensent encore. Mais la question était que le cinéma s'était lui-même posé la question de savoir dans quel film jouaient ceux qui prenaient la tête et qui disaient « je suis le peuple ». Donc j'ai pris des films absolument formidables. C'était Citizen Kane, où le corps de Orson Welles, qui est soi-disant au service du peuple, pour faire un journal au service du peuple, etc. Ce que ça devient, bon, comment se construit une dictature. Le film donc de Frank Capra, L'homme de la rue, qui est le titre français, alors que le titre anglais est « Meet, rencontrer John Doe »,« rencontrer Tartempion ». La rencontre de X, quoi. Et donc, je suis allée chercher les films. Alors, sans doute, « L'homme de la rue », enfin, « Meet, John Doe », est un très, très grand moment de cinéma, parce que il dit ce qui arrive, à savoir ça part, comme dans le Citizen Kane, de la situation d'un journal, d'un média, hein, le bulletin, voilà. Un journal disparaît pour faire place à un nouveau journal, vous voyez, c'est plus l'Observateur, c'est le Nouvel Observateur. Donc, on change le titre du journal, on met le mot nouveau, The New Bulletin. Voilà. Et maintenant, au lieu d'être un journal libre au service d'un peuple libre, c'était écrit au fronton du journal, on efface tout et on demande du sensationnel et on dit un journal à l'écoute de l'actualité. On vire tout le monde, chômage massif, et une journaliste de ce journal décide qu'elle ne veut pas être mise à la rue. Elle ne veut pas être femme de la rue, elle est journaliste, elle veut défendre. Donc on lui demande du sensationnel, vous aurez du sensationnel, et elle crée une fiction. Et le film raconte la fiction de la journaliste pour ne pas perdre son travail, à savoir qu'elle va écrire une fausse lettre adressée, disant, un homme lui écrit, qui signe John Doe, je suis un homme du peuple, j'ai perdu mon travail, je vis sous les ponts, je suis un clochard, etc., etc. Je n'ai plus aucun espoir en quoi que ce soit, je vis dans un pays, enfin bref, une sorte d'état, l'état de lieu du SDF chômeur qui n'espère plus rien de l'Amérique. Et donc, pour exposer mon malheur, ma douleur, film en pleine crise économique, pour exprimer mon malheur et ma douleur, je vais me jeter le soir de Noël du haut de la tour. Je vais me suicider, mais d'une façon spectaculaire. Cette lettre est une pure invention. Elle est publiée par le journal. Et toute l'Amérique, lisant le journal, dit « Il faut qu'on sauve cet homme ». Vous savez, les effets de médias. Voilà une histoire sensationnelle. Il y a un pauvre SDF, un malheureux, etc., qui va se tuer, etc. Alors, branle-bas général dans toute l'Amérique, on le va, il faut qu'on lui trouve du travail, il faut qu'on lui trouve un logement, Mais enfin, il faut qu'on le voit. Et il existe ou pas ? Cette lettre a été écrite par la journaliste, signée John Doe. Qui va jouer le rôle de celui qui a écrit la lettre ? Et elle fait un casting. Elle publie en disant que celui, alors qu'elle sait que c'est une imposture, elle a écrit la lettre. Elle publie dans son journal que celui qui a écrit la lettre vienne se présenter. Le pauvre type. Et on voit arriver au journal une cohorte de clochards SDF affamés, etc., qui tous disent c'est moi qui ai écrit la lettre. Surtout qu'on leur promet le travail, logement, argent, on veut les sauver. Ils sont tous, alors là, Frank Capra les a filmés, ils sont tous plus dégueulasses, vilains, pas possible, ouais. Et la journaliste et le directeur du journal, regarde, non, non, non. Et figurez-vous que dans la queue, il y a Gary Cooper. Qui est, effectivement, et qui arrive. Et là, vous voyez les yeux de la journaliste, et elle le fait entrer, c'est un casting. Elle le fait entrer dans le bureau, elle a renvoyé tous les autres. Alors vous avez écrit la lettre, et Gary Cooper, enfin, qui ne s'appelle pas évidemment ni Gary Cooper, ni John Doe, il s'appelle John Willoughby. C'est vous qui avez écrit la lettre ? Et lui dit, non. Ben alors pourquoi vous êtes là ? Parce que j'ai faim. Parce qu'on m'a donné de l'argent, je suis venu parce que c'est une bonne affaire. Ça est vraiment bien. Il est sincère. Vous savez, Gary Cooper, en plus, avec ce visage d'enfant innocent, c'est-à-dire, c'est un type vrai, qui dit la vérité. Il va être, par définition, le bon imposteur, puisqu'en plus, il dit vrai. Vous voulez bien un John Doe ? Bah oui, dites-moi ce qu'il faut faire. Et commence une saga absolument extraordinaire. Vous y assistez pendant 1h30, c'est un film prodigieux, qui fait de cet homme le représentant du peuple et de toute l'Amérique. Avec des discours, des conventions, il parcourt l'Amérique, etc. Et arrive la campagne présidentielle, et donc le parti qui veut la présidence, enfin je ne vous raconte pas tout le détail, faut que vous voyez ce film. L'homme de la rue peut devenir président des États-Unis et parce qu'il est le peuple, parce qu'il représente. Et là, tout d'un coup, il, dans une convention où on l'attend une fois de plus pour faire le discours qu'il faut au peuple qui l'acclame, etc., il est John Doe, sauvé, etc. Il représente tout le monde. Voilà, on a trouvé le corps du peuple, c'est Gary Cooper. Et là, tout d'un coup, il annonce à ceux qui le manipulent depuis si longtemps et qui font de lui un imposteur, il ne peut pas continuer à trahir les siens. Donc le voilà décidé, il annonce au manipulateur, ce soir, je vais dire la vérité. Je vais dire que ce n'est pas possible, que je n'ai jamais écrit cette lettre. Je suis comme vous. Et à ce moment-là, les micros sont coupés, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il n'a plus qu'une idée, c'est de se suicider. Voyez l'espèce de retournement pervers, etc. Donc ce film extraordinaire, qui est un des films que j'analyse, est passionnant parce que c'est vraiment le casting du premier venu et la question de savoir que choisit l'Amérique quand elle veut qu'un corps soit là au nom du peuple. Elle le veut, il faut qu'il soit Gary Cooper. C'est-à-dire que le cinéma est seul en mesure de fabriquer le corps du premier venu. Et c'est quand même, tout le monde ne ressemble pas à Gary Cooper, même François Hollande, qui a dit « je suis un homme ordinaire ». Mais pour être ordinaire, il faut être exceptionnel. Mais c'est pas tout le monde qui peut être exceptionnel.
Normal.
Oui. Je suis normal. Oui. Excusez-moi. C'est une façon de se présenter, passionnante, qui est si je suis vraiment le corps de ce qui ne peut pas être montré, il faut que j'offre quelque chose qui n'a aucune caractéristique. Mais c'est exceptionnel d'arriver à ça. Donc cette absence de caractéristique finit par devenir la singularité par excellence.
Et c'est extraordinaire. Et à ce film-là, donc, vous opposez le film de Sturges, oui.
Alors oui. Alors là,
de John Sturges. Tout à l'heure, j'ai dit Preston Sturges, c'est John Sturges.
Voilà. Qui est le voyage de Sullivan.
Voilà.
Alors là, où l'Amérique, justement, fabrique le scénario, enfin, un scénariste américain, fabrique un film dans lequel c'est un producteur de cinéma qui dit « j'en ai marre de faire des films qui enchantent le peuple et qui sont que des belles histoires, qui n'ont aucune réalité. Je veux maintenant faire des films qui parlent aux vrais gens de leurs vrais problèmes. » Mais pour que j'arrive à parler aux vrais gens de leurs vrais problèmes, il faut que je vive parmi les vrais gens. Donc je vais devenir vrai gens. Donc il part se déguiser. Alors tout le monde, catastrophé, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et il part, il s'habille en clochard. Et le voilà traversant l'Amérique en clochard pour connaître la vie des vrais gens, etc. Alors je ne vous raconte pas, c'est à vous de voir Le voyage de Sullivan. C'est terrible. C'est un film terrible, 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 parce que, justement, la conclusion, c'est la découverte, non pas qu'il va... je ne vous raconte pas toute l'histoire, il est pris dans une histoire de crime, enfin, c'est extraordinaire. Et en étant un criminel, un bagnard, qui voit des films... en compagnie de ses camarades bagnards, puisqu'il est allé au fond, hein, de vrais gens, c'est descendre au plus bas, hein, au bas-fond des geôles américaines avec les pires criminels, etc. Il s'aperçoit que le grand plaisir, c'est de voir un film de Walt Disney. Et donc, il ressort... Alors, toutes les péripéties qui font qu'il va retrouver son identité de producteur. Et on se dit, bon, bah, il va annoncer qu'il va faire des films sur la vraie vie des vrais gens. Et il dit, vous savez, ça m'a pris une chose. Hein. Il faut qu'on leur donne des distractions. Le peuple, il faut qu'on le fasse rire. C'est-à-dire, il est revenu non pas pour faire des films... pour les affamer, mais c'est pas Panem, c'est Sir Sincès. Donc il va falloir qu'on les amuse. Donc ce film est d'un cynisme radical, et par rapport à Frank Capra, qui est quand même un Italien immigré, où à la fin, il y avait plusieurs fins possibles à John Doe. l'une des fins possibles était la catastrophe, d'aller au bout de la catastrophe. Non, mais ça, il ne pouvait pas. Capra, c'est quand même un Italien qui, pour qui la rédemption, ça a encore un sens. Donc, la fin est celle de l'homme du peuple sauvé par le peuple, qui vient l'empêcher de se jeter, puisqu'il est parti suicider. Et c'est très intéressant, parce qu'au moment du suicide de John Doe, avant que le peuple le sauve, ceux qui avaient construit l'imposture à laquelle il ne veut plus se prêter disent « C'est très bien, suicidez-vous, de toutes les façons, on a déjà tout préparé, vous serez dans la fosse commune, vous n'existez pas. » Puisqu'il n'a pas de nom, John Doe, ça sera la mort de Tartampion. Vous voyez, donc, il y a une espèce de parole d'effacement. Bon, Capra choisit de ne pas leur laisser la victoire. Tandis que dans le film de Sturge, là, vraiment, on va au bout du bout, c'est-à-dire les médias, le cinéma de divertissement. Bref, on fera un jour un film qui s'appellera Intouchable. Voilà, c'est fait. C'est le bout du bout. C'est-à-dire, parlons du malheur et réjouissons tout le monde avec l'histoire du malheur. Et le peuple devient le rédempteur du malheur, y compris des plus riches. Allez, on y va. C'est fait. Moi, si vous voulez, il y a là quelque chose qui est annoncé par Sturge, dont Intouchable, pour moi, par exemple... Intouchable.
Vous en parlez dans le livre, d'ailleurs.
J'en parle ?
Il me semble.
Ah bon, je crois pas, parce qu'il...
Voilà, vous en avez parlé après, alors.
Non, oui, j'ai fait...
Je vous ai écouté sur France
voilà,
Culture.
Voilà, oui, oui, j'ai pris une colère en disant vraiment la politique du Caire. Ça va, quoi. Donc, c'est une façon de voir comment...
Ah oui, je me trompe, c'est le film de Benigni dont vous parlez.
Ah oui, La vie est belle. Oui. Terrible, voilà. Donc... c'est d'essayer de se rendre compte à quel point maintenant le cinéma et les arts visuels et de télévisuels et cinématographiques et toutes les techniques, toutes mises en image devraient se poser la question, que ce soit la photographie, le cinéma, le documentaire, la fiction, qu'importe. La télévision ne se pose pas le problème, elle le résout. Mais devrait se poser la question de la construction de la place du spectateur. Qu'est-ce qu'on donne à voir et quelle place on donne à celui qui regarde ? Et qu'il n'y a pas d'autre critère pour moi face à un film, qu'il soit heureux, malheureux, qu'il nous fasse rire, pleurer. La question n'est pas qu'un film doit produire un certain type d'émotion, ni que tout le monde doit aimer les mêmes films. Au contraire, le débat est ouvert et les contradictions sont toujours fécondes. Mais si on en débat, c'est que la place qui a été faite au spectateur permet ce débat. Là où il n'y a plus de débat, c'est que même pour des films que l'on considère comme très réussis, si un film est indiscutable et assène un point de vue à celui qui regarde, le peuple est trahi.
Parce que là, on est dans la connivence démagogique.
C'est les spectateurs. Il n'y a pas d'autre façon de faire exister le peuple que l'assemblée des spectateurs. On ne le verra pas à l'écran, le peuple. Mais l'écran peut constituer tous ceux à qui il s'adresse comme peuple. Donc la place du peuple, elle est construite par le cinéma. Elle n'est pas montrée par le cinéma.
Et le contraire, c'est la connivence démagogique.
Ah ben oui, alors là, bon, les exemples...
Alors je voulais vous poser une dernière question, parce que vous faites l'éloge de la liberté, justement, à travers à la fois ce mouvement des images du cinéma, mais aussi ce mouvement et ces rythmes qui sont présents, au fond... dans tout art, en tout cas dans tout art à son meilleur, il y a un battement qui permet justement la construction de la liberté et qui est le contraire de l'immobilisation en une chose. Et vous parlez du tempo de la pensée, vous citez votre ami Patrice Leroux, ouais, notamment, et j'aurais aimé que vous en parliez un petit peu. Comment, selon vous, justement, le cinéma, mais tout art en définitive, est capable justement de susciter ce tempo vibrant de la pensée? Vous citez aussi les romantiques allemands, et notamment Schlegel, à propos du Witz. Ouais. J'aurais aimé que vous parliez un petit peu de ça.
Oui. Oui, c'est... d'ailleurs, le livre se termine sur la question du carnaval.
Tout à fait.
ce que je C'est déjà la mise en place du chantier qui est le mien maintenant, hein, qui est la construction du cinéma comme la construction de l'image, pardon, pas seulement du cinéma. Le cinéma est un fil que je tiens ou qui me conduit. Mais vous avez parfaitement raison de dire que ce que je travaille à travers le cinéma, je le pense de tout ce à quoi je donne le nom d'art. Oui. Un artiste, pour moi, enfin un geste d'art est un geste qui fait présent à ceux à qui il s'adresse de liberté, qui fait le don de la liberté à ceux à qui il s'adresse. Alors qu'un artiste peut parfaitement ne pas avoir vécu le temps de la production et de sa création, forcément dans la liberté la plus totale. Au contraire, je veux dire, c'est souvent l'affrontement des médiums, des contraintes, des matières. Au cinéma, elles sont considérables parce qu'elles sont aussi financières et techniques. Mais il n'est pas d'art qui ne subisse et ne connaisse les déterminations du travail et de la production. Donc, cette liberté, elle se construit entre ce qui est donné à voir, ce qui est donné à sentir et ceux qui le reçoivent. Et c'est valable, comme vous l'avez dit, pour tout art. C'est-à-dire que si je continue à regarder les fresques de Michel-Ange ou les tableaux de Rembrandt ou ceux de Picasso, alors qu'ils appartiennent à des mondes de contraintes et de déterminations qui n'ont strictement plus rien à voir les uns avec les autres, c'est qu'il se joue dans ces figures de la création ce que Spinoza, je dirais, appelle un régime d'éternité.
Tout à fait. Hein,
un régime d'éternité, pas d'immortalité, ni d'indétermination matérielle, loin de là, au contraire, dans la détermination historique la plus précise et la plus oppressante parfois. Bien des œuvres ont été créées sous des régimes d'oppression considérables ou dans des difficultés cruelles, matérielles. Voilà. Mais que le temps... C'est pour ça que je dis toujours que l'image est un problème de temps et pas d'espace. C'est-à-dire que ce qui fait vivre la liberté des images, c'est le registre de temporalité qu'elle construit, cette temporalité échappant précisément à la détermination, hein, au poids des déterminations. Donc, le caractère non conditionné, inconditionnel des figures de l'art, m'autorise à reconnaître en tout geste d'art une figure de l'éternité, au sens spinoziste du terme. Mmh. Je crois que là, puisque je travaille de façon continue avec mon ami Patrice Leroux, j'appelle travailler le fait que nous... Voilà, Patrice et moi, nous, tous les dimanches matins, nous nous enfermons pendant 3 heures sur un problème de philosophie et nous moulinons en secret dans une sorte, voilà, des questions philosophiques sur énormément sur le rapport entre l'image, la parole et le temps. Il a écrit ce livre magnifique, Le Tempo de la pensée. Malheureusement, il n'en écrit plus et il ne veut plus en écrire. Mais c'est un moment très précieux pour nous. Et donc, je partage avec Patrice Leroux cette interrogation sur le fait qu'il accepte maintenant de ma part cette désignation du champ de l'image comme n'étant pas celui de la vision. Donc, travail sur l'invisible. Hein. Qu'est-ce qui, de l'image dans le visible, désigne quelque chose que l'image ne montre pas ? Que quelqu'un avec qui je travaille aussi énormément et dont je vous recommande la lecture et les films, Jean-Louis Comolli, travaille dans le cinéma sous le signe du hors-champ. Il a encore sorti son dernier livre, qui sont les articles qu'il a écrits pendant les 5 dernières années, qui s'appelle « Corps et cadre » chez Verdier, « Voir et pouvoir », etc. Comolli, qui est cinéaste et documentariste, a fait un travail, et fait toujours un travail considérable par l'écriture et par le film pour mobiliser ceux qui le lisent et ceux qui voient ces films sur cette question de la construction de la place du spectateur comme étant la question du cinéma. Construire le peuple, c'est construire le spectateur là où il est, dans la foule de ceux qui regardent les films. Foule réunie, foule dispersée, qu'importe. Foule mondiale, foule planétaire, familiale, qu'importe. Le peuple est hors champ. Mais c'est ce dont il est question dans le champ. Mais il n'est pas visible. Donc, c'est cette dimension de la liberté. Et alors, c'est vrai que je suis passée par, par le vite. À partir du moment où je voulais, puisque l'image n'était pas dans l'espace, mais dans le temps, alors que nous sommes vraiment dans l'espace, les uns à côté des autres, à des distances, vous voyez, variables mais mesurables, voilà, nous formons là une espèce de petit ensemble qui a une sorte de consistance temporaire, puis qui va disparaître dans tout à l'heure. Hein. Mais nous partageons en tous les cas de l'espace en ce moment avec nos corps, des voisinages, et puis nous partageons du temps. Et dans le temps que nous partageons, pendant ce moment de consistance, il se met à circuler des silences, des paroles, vous allez me parler. Voilà qu'il va y avoir invisiblement quelque chose qui va justifier l'étrange consistance de ce petit groupe qui, moi, je ne connaissais rien il y a une demi-heure. Oui. Elle est là, elle se tisse invisiblement parce qu'il y a un livre, des paroles, des mots, des gens. C'est ça qui fait que tout d'un coup, on fabrique dans l'invisible de la tenue. De la tenue, ça se tient. Ça se tient ou ça se tient pas. Pour moi, en ce moment, j'ai envie que ça se tienne. Mais faut pas que je vous retienne non plus. Il faut que les choses se tiennent et qu'elles soient toujours extrêmement fragiles, menacées de dispersion, avec la promesse de la liberté, avec de l'espace entre. Hein. On n'est pas les uns sur les autres. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment, ensemble, nous consistons, nous tenons ensemble, à travers, grâce à des adresses invisibles, et que les images sont le site, dans le visible, de cette promesse. Les cinéastes, les peintres autrefois, peut-être encore aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore quelques-uns, les artistes, tous les créateurs ont fait tous les gestes de création. Alors c'est pour ça que je me suis mise à parler de musique, de littérature, etc. Tout geste de création fait exister entre nous, invisiblement, ce qui va donner de la tenue et de la consistance à des voisinages temporaires, durables, politiques, sociaux, amoureux, qu'importe. Hein. Tous ces ensembles que nous formons et dont nous essayons de régler deux choses. Leur tenue, ne pas se perdre tout le temps, ne pas voler en éclats et ne pas retenir. C'est-à-dire la promesse de la dispersion, l'autorisation au vagabondage. Voilà, hein. La messe est dite, comme disent les chrétiens. Allez, partez maintenant, voilà. Donc, c'est l'image, c'est ça. C'est un rendez-vous où on vous dit de venir à condition qu'on vous laisse partir. On ne vous retient pas. Et qu'elle est, donc, alors je me disais, comment qualifier cet endroit qui s'appelle le visible, les images, dans l'art? Comment qualifier les traces matérielles de ces gestes créateurs qui nous maintiennent ensemble et en même temps nous libèrent de toute contrainte et de toute obligation, de toute assignation à résidence? Godard avait eu cette phrase très jolie, dont je n'ai pas retrouvé la trace, mais comme c'est Bergala qui la cite, je lui fais confiance, parce qu'il a fréquenté Godard au plus près, en disant « Pour voir, il ne faut pas avoir peur de perdre sa place. » Cette notion de place, qui est si importante dans une assistance, hein, vous voyez bien, comme ça, je vous dis, vous n'êtes pas assis les uns sur les autres, chacun a sa place, on achète sa place, on a sa place, on occupe sa place. Il faut que cette place soit, les gestes d'art ont pour mission de faire que cette place est continuellement mobile, déplaçable, changeable. Elle n'a aucune identité, elle n'est pas un lieu d'identification. Vous voyez que c'est politiquement très important, parce que la place du citoyen n'a rien à voir avec une place d'identification, avec une assignation à identité nationale ou autre, avec une assignation à résidence, à résider dans son nom, à résider dans sa photo, à résider dans ses empreintes digitales, à résider à son adresse, à résider... Voilà. Pas d'assignation à résidence. L'image est précisément ce qui nous permet de nous construire comme sujet et d'être dans une place où nous ne nous sommes pas assignés à fixer. Vous voyez ? Lacan jouait sur les mots en opposant fiction à fiction, l'écrivant tantôt avec F-I-C-T-I-O-N à F-I-X-I-O-N. La fiction opposée à la fiction. Il ne faut pas nous fixer. La fiction, elle est là pour empêcher qu'on nous fixe. Et c'est une jolie... Il avait l'art des calembours. C'est une jolie façon... de faire jouer l'homophonie, mais qui dit bien quelque chose d'important, à savoir que la liberté qui se joue dans le site de l'image est quelque chose qui construit le sujet sans l'identifier, sans lui demander d'être là où il est, d'être qui il est, ni quoi que ce soit. Il y a une sorte d'hospitalité inconditionnelle de l'image. Tout le monde peut... Alors, c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'art cinématographique, évidemment. Tout le monde peut tout voir. Je sais que ça a beaucoup choqué. Quand j'ai travaillé avec les gens de la commission à la classification des films, parce qu'il y a ça, on ne peut pas montrer, ça, on peut montrer, ça, il faut regarder quel âge il a, etc. Ce qu'on donne à voir... Si il y a des choses que certains ne peuvent pas voir, alors il faut se poser des questions sur ce qui est donné à voir. C'est-à-dire, sur qu'est-ce qu'on a construit comme place ? Est-ce que ce qu'on donne, la pornographie par exemple, elle assigne à résidence ? C'est certain. Elle dit à celui qui regarde, tu es là, tu es le voyeur qui voit ce qu'on lui donne à voir, là où il le voit, point barre. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas de hors-champ. C'est ça qui est pornographique. Mais du coup, moi, je dis, la télé, c'est porno. Parce que la télé aussi, il n'y a pas de hors-champ. Partout où il n'y a pas de hors-champ, c'est porno. Donc c'est idiot d'interdire la porno si on n'interdit pas tous les endroits où il n'y a plus de hors-champ. Mais ça se dit, il ne faut pas dire ça n'importe où.
C'est merveilleux ce que vous dites, la Marie-Josée. C'est vraiment merveilleux. Et je voudrais dire que votre écriture... à la fois cette densité et aussi cette liberté permanente. Tout à l'heure, je vous disais ça, c'est que quand on vous lit, on ne sait pas comment va se terminer votre phrase, on ne sait pas ce que va être votre phrase suivante, et c'est toujours une découverte enrichissante de vous découvrir. Au fond, votre livre nous fait assister au développement même de votre pensée, de votre travail de pensée. Et ça, c'est vraiment, c'est assez rare de trouver ça dans un livre, hein, qui n'est pas simplement l'exposé d'une pensée déjà faite, mais qui est l'exposé d'un travail qui se donne, qui s'essaie, hein, qui a le courage de s'élaborer et qui aussi se partage.
C'est vrai que j'ai voulu écrire comme je pense.
Voilà.
Et pas comme on m'a appris à dire que je devais penser. En plus, bon, j'ai donné à l'université des preuves d'allégeance. Je trouve que ça va, j'ai fait tout ce que je pouvais pour elle, et au CNRS aussi. Donc voilà, j'avais envie de dire... je sais que mon ami Georges Didier Huberman m'a dit « Dans tes livres, il n'y a pas assez de notes. » Là, le dernier, là, il n'y en a pas du tout. Dieu sait que j'aime beaucoup son érudition, mais c'est vrai que je veux... Voilà. Si je pense à quelque chose, je le dis comme quand je pense. Parce que quand je parle, il n'y a pas des notes de bas de page. Je parle, et puis tout à coup, je vais dire, comme dit Lacan, bon, ben alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que je mette en toute petite lettre en bas avec un numéro, Lacan dit, etc. Parce que c'est... Voilà. Donc j'avais envie de dire les choses comme elles venaient se placer au moment où je les pensais. Parfois, en me relisant, je me disais, aujourd'hui, c'est un peu désordonné, etc. Donc il y a eu un travail de montage, ça c'est vrai. Il y a un après-coup. Mais au cinéma non plus, il n'y a pas de notes de bas de page. Je voulais que ça soit comme les images m'ont appris à faire. On construit, on prend des risques. Et de temps en temps, il faut quand même mettre un peu d'ordre ou recommencer le dessin. Mais on ne se décharge pas de ce qu'on ne sait pas où le mettre. En disant qu'il va y avoir un petit peu de place en bas et un peu de place à la fin pour que vous savez, le tiroir où on met tout ce qu'on n'a pas su mettre dedans. Voilà. Donc,
merci beaucoup, Marie-Josée.